Le journal, Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Des cow-boys sur leur vélo dans l'été indien. Le Tour de France avec 2 mois de retard dans un quasi huis clos. Départ à Nice, 14h15, dans un département où le Covid circule à grande vitesse. Drôle de grande boucle cette année, avec un favori inconnu du grand public, le Slovène Roglic. Le Covid, le masque obligatoire et parfois aussi la fermeture des bars, des restaurants à 23h, c'est le cas à Marseille. La profession le vit comme une injustice, vous l'entendrez. Et puis aussi le virage sécuritaire assumé par Emmanuel Macron. La petite fille de Martin Luther King au micro devant la foule à Washington hier, 57 ans après le I Have a Dream de son grand-père. Et enfin la mort du premier super-héros noir, Black Panther, c'était lui. Chadwick Boseman, l'acteur est mort cette nuit, il était devenu un symbole dans le monde entier.
L'invité ce matin à partir de 8h20, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est la rentrée du PS ce week-end à Blois, un parti en quête d'alliance. Vos questions à Olivier Faure, c'est maintenant 01 45 24 7000.
France Inter. Tour de France méconnaissable, comme si lui aussi avait mis un masque. Une caravane réduite, des spectateurs tenus à l'écart et des coureurs dans une bulle sanitaire. Le Covid plane dans une ambiance surréaliste. D'habitude si bruyant, si festif, le Tour se cache presque cette année et joue sa survie alors qu'il n'est même pas encore parti. Nicolas Perronnet.
Celui qui résume le mieux la situation, c'est Dave Brailsford, le patron d'Ineos et du tenant du titre, Egan Bernal.
Pour moi, c'est clair. On ne sait pas. Personne, en fait, sait si on va arriver à Paris ou pas. Ça, c'est la vérité. Mais on va essayer.
À pédaler face au vent et croiser les doigts, le grand départ n'est pas encore donné, que déjà, à chaque jour suffit sa peine. Hier, le protocole sanitaire de la course a été assoupli, mais il reste très strict. 2 coureurs positifs en une semaine et l'équipe entière rentre à la maison. Trop aléatoire, surtout pour Jérôme Pinault, le manager de l'équipe bretonne BNB Vital Concept.
On a bien compris qu'on pouvait se retrouver positif un jour et négatif le lendemain. Si demain on a 2 tests positifs, il faudra partir du Tour. Par contre, j'interviendrai aussi derrière pour qu'on prouve que mon coureur était en danger ou mettait en danger les autres. Et j'espère que les tests ne seront pas des faux tests ou des mauvais tests, ça c'est sûr.
Incertitude à tous les étages sur la Côte d'Azur, dans un peloton qui en avait déjà beaucoup entre le calendrier bouleversé et les pics de forme chamboulés. Même pas la météo, décidément, pour se raccrocher à des valeurs sûres. La pluie est annoncée sur le parcours de la première étape aujourd'hui au départ de Nice.
Et c'est encore derrière sa télé qu'on sera le mieux pour suivre ce 107e Tour de France inédit dans la forme. Première étape donc aujourd'hui près de la promenade des Anglais. 156 km autour de Nice. Favorable aux sprinteurs. Maintenant, si on ne parle vraiment que du sport, le grand favori de tous les sites de paris en ligne, ce n'est pas le tenant du titre, le Colombien Bernal, non. Ce n'est pas non plus le Français Thibaut Pinot, non, mais un Slovène. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Nice, un Slovène inconnu du grand public, Primož Roglič de son petit nom.
Oui, Roglič, 30 ans, est le grandissime favori de ce tour, intouchable. Impressionnant, voilà les qualificatifs employés par ses adversaires lors des courses du mois d'août. Roglič, déjà 2 fois vainqueur d'étape sur le Tour, lauréat du Tour d'Espagne l'an dernier, est sorti comme un avion du confinement. Pourtant, son pays, la Slovénie, 2 millions d'habitants, n'est pas un pays de cyclisme. D'ailleurs, le jeune Primož s'est d'abord adonné au ski. Dès l'âge de 8 ans, le saut à ski, champion du monde junior par équipe, grand espoir, jusqu'à une chute en 2012. Son médecin lui conseille alors le cyclisme comme rééducation et Roglič adhère à tel point qu'à 22 ans, à l'âge où certains rêvent de gagner le Tour, lui se lance seulement dans la carrière et sa progression est fulgurante. Bon grimpeur, parfait rouleur, excellent descendeur. Il a gardé de ses années sur les tremplins le sens de l'aérodynamisme. Son équipe néerlandaise, la puissante Jumbo-Visma, doit l'aider dans sa quête, à moins que certains de ses coéquipiers, comme le néerlandais Tom Dumoulin, ne se révèlent en fait des adversaires redoutables.
Merci Jérôme Cadet en direct de Nice. Et donc Roglič pour la prononciation. Notez que le maire LR de Nice, Christian Estrosi, sera l'invité tout à l'heure du journal de 13h sur Inter. Le Covid en recrudescence exponentielle, alerte la Direction Générale de la Santé. Hier, plus de 7000 nouveaux cas détectés en 24 heures. Des hospitalisations et des admissions en réanimation plus ou moins stables. Mais le gouvernement recommande aux familles de se faire tester avant d'aller voir leurs proches en EHPAD. Et puis le port obligatoire du masque s'étend. Strasbourg et Bordeaux devraient bientôt rejoindre Paris et Marseille. Marseille où les restaurateurs et patrons de bar ont bien du mal à comprendre quand dans la capitale, salle. On peut encore siroter en terrasse tard le soir. Eux doivent baisser le rideau à 23h, une sorte de couvre-feu qui concerne toutes les Bouches du Rhône depuis mercredi soir, imposé par la préfecture, mais vécu comme une injustice. C'est le reportage de Sébastien Sabiron dans les rues de Marseille.
Attablé en terrasse de sa pizzeria, le regard fatigué, Marco ne comprend pas le bien fondé de cette obligation de fermeture anticipée.
Moi je trouve que c'est stupide. Pourquoi tu me fais ouvrir jusqu'à 23h? Pourquoi à 23h il arrive le virus? S'il y a le virus, c'est toute la journée.
Incompréhension partagée par Laurent Thubeau, patron de l'Hippocampe sur le Vieux-Port. Il estime perdre 5 à 10% de sa clientèle chaque soir.
C'est une mesure qu'on suivra à la lettre sans tergiverser. Mais pourquoi 23? Pourquoi pas minuit pour faire un service normal? Point d'interrogation. Je pense qu'une heure de plus n'aurait pas changé grand-chose au niveau de la transmission du virus. Ça aurait permis à notre clientèle de finir de manger tranquillement.
D'autant, estiment les restaurateurs, que cette mesure n'empêche pas les attroupements et l'alcoolisation. Frédéric Jean-Jean, secrétaire général de l'UMI, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie dans les Bouches-du-Rhône.
Quand vous avez le Vieux-Port, qui quasiment tous les soirs devient un marché sauvage, quand vous avez des soirées privées qui sont organisées partout, est-ce que le virus circule moins dans ces endroits-là que sur des terrasses où 90% des professionnels jouent le jeu du protocole sanitaire? Pourquoi encore nous? Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne nous aime pas?
Et les professionnels de redouter un mois de septembre morose, privés de leur clientèle habituelle de retraités, effrayés par la situation épidémique. Marseille, Sébastien Sabiron, France Inter.
Le virus à l'échelle européenne, toujours difficile d'y voir clair. Quand la France mise sur les masques, la Hongrie choisit de fermer ses frontières jusqu'à fin septembre. Et puis en Allemagne, comme en Autriche, ce samedi, les anti-masques ont prévu de se mobiliser. Manifestation à Berlin tout à l'heure, largement soutenue par l'extrême droite. On attend plusieurs milliers de personnes.
Tout faire pour éviter le reconfinement, mais l'hypothèse n'est pas exclue, a dit hier Emmanuel Macron aux 70 journalistes qu'il a reçus pendant 2 heures.
Le discours de la méthode. Aucune annonce, aucune réforme, mais beaucoup d'explications. Emmanuel Macron a tenté de justifier son cap économique, sanitaire et sécuritaire. Vidéo de dealer à Grenoble, chauffeur de bus, maire, policier agressé, violence après les matchs du PSG. La droite pousse très fort. Un été orange mécanique a dénoncé cette semaine Xavier Bertrand. Bruno Retailleau, qui réunit ses troupes à la Baule ce week-end, paraphrase De Gaulle, lui, dans Le Parisien ce matin. Avec Macron, dit-il, on n'a pas la réforme, mais on a la chienlit. Bref, sous la pression, le gouvernement a déjà négocié son virage sécuritaire, mais le président en a remis une louche hier. Yael Gauze.
La France s'est-elle ensauvagée? Emmanuel Macron ne reprend pas le mot de Gérald Darmanin, mais parle d'une violence qui s'est banalisée, sur les réseaux sociaux d'abord, où toute parole se vaut, avant de déboucher, selon lui, sur de la violence verbale et physique. Changement anthropologique, analyse le président, où l'autorité même du scientifique et de l'élu n'est plus respectée. Passé ce quart d'heure philosophique, Emmanuel Macron se fait plus concret. Réponse éducative, réponse policière, il promet d'être intraitable en insistant sur le judiciaire. Budget en hausse, plus de greffiers et de juges au plus près du terrain pour que la sanction tombe vite. Le président prévient, et notamment ses adversaires à droite, que tout ne se réglera pas du jour au lendemain et met la pression sur ses ministres de l'Intérieur et de la Justice à eux d'apporter des mesures additionnelles pour le séminaire gouvernemental du 9 septembre. Autorité, respect. Emmanuel Macron prépare aussi un discours plaidoyer pour le patriotisme républicain. Ce sera vendredi prochain pour commémorer la proclamation de la République par Gambetta il y a 150 ans.
Yael Gauze, c'est un SOS comme une bouteille à la mer. Le navire affrété par le street artiste britannique Banksy en Méditerranée a lancé hier soir un appel à l'aide après un nouveau sauvetage massif de migrants. Ils sont à présent 219 à bord pour 10 membres d'équipage. Il y aurait déjà une victime et beaucoup d'autres blessés brûlés par les carburants.
Des milliers de personnes rassemblées contre le racisme aux États-Unis, c'était hier à Washington hier soir.
3 mois après la mort de George Floyd, 5 jours après une nouvelle bavure policière contre un Afro-Américain dans le Wisconsin, Jacob Blake, grièvement blessé, 7 balles dans le dos et 57 ans jour pour jour. Après le discours historique de Martin Luther King, I have a dream, et dans la foule, au pied du mémorial de Lincoln hier, il y a la petite fille Yolanda King. Elle s'était déjà exprimée après la tuerie dans un lycée de Floride. 2 ans plus tard, elle fait le bilan. Elle a 12 ans. Au micro, sa voix, son message donne des frissons.
Certains d'entre vous se souviendront qu'il y a 2 ans, j'ai dit « faites passer le message ». À travers tout le pays, nous allons devenir une génération fantastique. C'était en 2018, je ne savais pas ce qui nous attendait en 2020. Une pandémie qui a fermé nos écoles et mis nos jeunes vies en pause. Encore plus de meurtres par la police de personnes noires désarmées. des attaques sur tous les droits de vote, la pire crise économique depuis la Grande Dépression que nous avons étudiée à l'école et les pires phénomènes météorologiques jamais connus. Mais des grandes épreuves naissent de grands dirigeants.
Discours poignant de la petite fille de Martin Luther King au moment où l'Amérique se déchire entre les manifestants et les émeutes d'un côté, les milices d'extrême droite et pro-Trump de l'autre. À propos de Donald Trump, sur les chemins de la campagne présidentielle, il a encore une fois sorti sa carte de la loi et de l'ordre hier soir. C'était devant ses partisans dans le New Hampshire. C'est dans ce contexte que disparaît le premier super-héros noir, Black Panther, créé par Marvel, mais incarné sur grand écran en 2018 par Chadwick Boseman. L'acteur est mort d'un cancer, on l'a appris cette nuit, il avait 42 ans. Black Panther avait explosé tous les records au box-office mondial. Chadwick Boseman était devenu un symbole. Correspondance à Los Angeles, Loïc Piala.
Avant de devenir une star mondiale grâce à Black Panther, Chadwick Boseman s'était fait une spécialité des biographies d'icônes noires. Le légendaire joueur de baseball Jackie Robinson dans 42 d'abord, puis James Brown dans Get On Up et Thurgood Marshall, le premier juge afro-américain à siéger à la Cour suprême. Mais c'est vraiment son rôle de super-héros qui l'a rendu incontournable. Des millions de gamins crient encore bras croisés, Wakanda Forever, sa réplique phare. Charismatique en diable, Boseman était déjà malade en 2018 quand il a tourné Black Panther, la première production Marvel, nommée à l'Oscar du meilleur film. Nos cœurs sont brisés, ont commenté les studios Marvel sur Twitter. Black Panther a marqué un moment majeur dans l'histoire d'Hollywood, prouvant qu'un long métrage au casting quasi intégralement composé d'Afro-Américains pouvait remporter un succès planétaire. La suite devait sortir en 2022. L'acteur venait tout juste de travailler avec Spike Lee dans The Five Bloods, une production Netflix. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Chadwick Boseman a inspiré plusieurs générations. Il était bien plus puissant que son personnage. Un tweet signé cette nuit du candidat démocrate Joe Biden.